Salut!
Salut tout le monde!
Hello à tous!
Yo, comment ça va?
Bah très bien, impeccable!
Impeccable! Bienvenue dans Qu'est-ce qu'on bouffe? La dernière émission de l'année. On a commencé il n'y a pas si longtemps, c'est le sixième épisode, c'est déjà la fin de l'année.
Oui, et puis les deux prochains mercredis, ça tombe le 25 décembre et le 1er janvier. Après, on sera le 1er janvier.
Donc, petites vacances pour l'équipe de Qu'est-ce qu'on bouffe et pour les invités, on va les laisser tranquilles aussi un petit peu en cette période-là. Donc on reprendra, normalement c'est le 8 janvier, on reprend mercredi 8 janvier, on se retrouvera en 2025. Alors, qu'est-ce qu'on bouffe? Pour les personnes qui connaissent pas trop, on présente quand même rapidement, Robin.
Oui, une émission, bah, 1 heure par semaine, 3 mercredis par mois, où on parle de bouffe locale essentiellement, que ce soit des boissons, des produits alimentaires, et on a toujours chaque semaine un invité, un producteur, un maraîcher, une maraîchère, un vigneron, vigneronne, ou des transformateurs plutôt, cuisiniers, cuisinières, des distributeurs aussi,
Voilà,
comme
c'est ça.
Amanda de la Fourchette Paysanne qui est venue en tant qu'épicière,
Ouais.
ou Christophe de la Cave du Théâtre comme caviste.
Comme caviste, exactement. Trufficulteur aussi. On fait un bon petit tour d'horizon. Et puis, bah, on va changer cette semaine. Je vous en dis pas trop. On va en reparler. Moi, c'est Maxime. Je présente l'émission. Normalement, il y a des gens qui commencent à nous connaître un petit peu. Mais on refait un tour de table avec Robin.
Ouais, cuisinier et restaurateur à Tours,
Exactement.
voilà, au restaurant chez Gaster.
Exactement. Maître Capello.
Maître Capello, toujours là pour faire le juge et être l'avocat de l'émission.
Ouais, tapez pas Maître Capello sur Instagram, vous n'allez pas le trouver. C'est pas lui, il s'appelle Simon dans la vraie vie. Je tiens à préciser quand même. C'est pas pareil. Rapidement quand même, petit sommaire de l'émission, puis après on va présenter l'invité évidemment, qui va pouvoir prendre la parole. Tu peux parler quand tu veux, je te rassure, mais pour l'instant. Donc, on va présenter l'invité, on va faire un petit jeu. T'aimes bien jouer?
Ça dépend à quoi.
Ouais, tu vas voir, t'inquiète pas, c'est très très facile. On va avoir, comme toutes les semaines, le fil rouge de l'émission, la bouteille mystère. La bouteille, on ne sait pas ce que c'est, mais on va quand même déguster.
On voit les verres déjà.
Ouais, c'est ça, le jeu de la bouteille mystère, donc c'est le fil rouge de l'émission. L'idée, c'est de faire une dégustation à l'aveugle d'une bouteille choisie par Fanfan. Alors, ceci est l'enfant de Robin, qui est aussi l'autre personne de
l'enfant mystère.
L'enfant mystère.
C'est l'enfant mystère.
Alors,
qui
lui,
est
on sait
avec
à qui
nous.
il est. Mais donc, la bouteille mystère, une bouteille choisie par Fanfan, l'associé de Robin chez Gaster, qui nous choisit chaque mercredi une bouteille. Et le but, du coup, c'est tout au long de l'émission d'essayer de voilà, dire ce qu'on en pense et d'essayer de trouver ce que c'est. Et réponse en fin de l'émission par Maître Capello, évidemment, qui a toutes les clés en main.
Évidemment. On va faire aussi le plat principal de l'émission, hein, parler de l'invité, de son parcours. On aura le temps d'aborder plein de sujets. Évidemment, à chaque fois, on n'a qu'une heure d'émission, il en faudra environ 8 pour faire le tour de la question. Et puis, on va finir aussi avec petite recommandation de cuisine de Robin. S'il a le temps de faire ça, on verra aujourd'hui. Il n'aura peut-être pas le temps de le faire. Alors, notre invité, vraiment.
Il va y avoir un petit biberon.
Allez, petit biberon.
Allez, petit biberon. Et en attendant, du coup, du biberon, on va l'occuper aussi en présentant l'invité. Alors, l'invité cette semaine est vigneronne. Petit problème technique.
Oh non.
Je me suis pas encore trompé du prénom de l'invité, parce que je fais
Non.
ça aussi, je me gourde des prénoms des invités. Bon, peut-être pas pourtant.
T'exagères, on s'est vu hier, tu pourrais.
Ouais, non,
tu
mais
vas
c'est
pas
pour ça.
oublier d'ici là quand même.
Exactement. Alors, notre invité cette semaine est vigneronne. Alors oui, on vous a déjà beaucoup parlé de vin dans cette émission, mais on n'avait pas encore eu de vigneron de vigneronne pour venir en parler avec nous. Et vous doutez bien qu'on n'allait pas inviter n'importe qui. Notre invité donc est vigneronne, et ce depuis 2002. Après des études en biologie et en œnologie, elle travaille chez François Chiden à Vouvray, entre autres, hein. Ouais. Puis à son compte depuis 2004. D'abord en achetant du raisin, puis en 2011, elle se lance, ses vignes à elle. Ses vignes, ses vins, avec leur caractère marqué. Une patte qu'on reconnaît. Bon, sauf nous, peut-être si c'est une bouteille mystère, on est capable de passer à côté, parce que ça arrive à tout le monde. Mais bon, en général, on reconnaît quand même pas mal. Elle travaille plusieurs cépages bien du coin, le gamay, le chenin, le co. Mais le seul cabernet qu'elle a dans son cœur, c'est son cheval.
pas le mien, mais.
Non, pas le tien, mais bon.
Je l'héberge.
Tu l'héberges et tu le nourris quand même. Elle est née le même jour que Idriss Elba et John Dalton. Alors, John Dalton n'a rien à voir avec les frères Dalton. Hein. C'était un chimiste. C'est lui qui a découvert le daltonisme parce qu'il en souffrait. Et également des gros travaux atomiques. C'est pourquoi il est connu. J'en profite pour parler de Jean au passage.
On lui passe le bonjour.
On lui passe le bonjour. On l'embrasse. Allez, on vous emmène en balade avec un petit verre de gros lot avec Marie Thibault. Salut Marie.
Salut les gars.
Il bosse énormément sur ses intros.
Oui, c'est bien.
Ouais,
il y a des belles rimes, c'est beau.
Ouais, j'avais pas parlé de ton conjoint, Marie. Je ne sais même pas si vous êtes mariée.
Il y a beaucoup de papiers quand même fait entre nous. Mais...
Ouais, tout ça. Mais bon, donc il y avait. Parce que son nom de famille, c'est Saumon. Il y avait plein de jeux de mots à faire, mais je pense que vous en avez.
Tu feras avec lui une autre fois.
Exactement, c'est ça.
Moi, j'ai pas un nom de claquette comme le sien.
J'aime beaucoup. Ouais, sympa. Non, on fera des jeux de mots nuls avec lui. Je pense que ce sera.
Il va pas passer à la trappe.
Non, c'est ça, exactement. Comment ça va depuis hier? Parce que du coup, on rappelle quand même qu'on est passé vous voir donc avec Robin au domaine, faire un tour dans les vignes. Très très cool. On est un petit rayon de soleil, parce qu'on voit pas beaucoup en ce moment, mais on était quand même plutôt bien lotis. Tour dans les vignes, on a pu goûter du vin, manger ensemble le midi. C'était une super journée.
Bah, tant mieux.
Déjà, merci pour l'accueil.
Bah, de rien, avec plaisir. On aime faire ça aussi. Ça fait partie de notre plaisir et notre boulot, mais on confond un peu tout. Nous, on a un métier où on confond
qui joint
le plaisir à l'agréable et qui ont le perso et le boulot, voilà, tout est un peu, mais c'est chouette, c'est ça qu'on aime.
Oh, ça fait quand même des grosses journées, mine de rien, même si c'est pas de travail dans les vignes.
C'est intense. La vie est intense.
On va dire ça. Et du coup, tu étais aussi un petit peu, ces derniers jours, tu as pas mal voyagé.
Ouais, c'est la période où on se déplace pas mal pour faire du commerce, pour vendre du vin. Mmh. Et du coup, comme on fait beaucoup d'exports, on part à l'étranger pour vendre du vin. Donc là, on était plutôt côté Amérique du Nord. On a fait aussi un petit peu l'Europe en novembre. L'Europe, à Londres, si on peut dire.
Oui, c'est très loin de l'Europe, on va dire. Ils sont tellement différents, mais ils ne sont pas très loin.
On les aime bien quand même.
On les embrasse.
Oui, c'est ça. Mais voilà, on bouge un peu. C'est la période où on peut bouger un peu loin parce que c'est plus calme dans les vignes. Mmh. On n'arrive pas à se dégager comme ça une semaine ou 10 jours pendant le printemps ou même l'été. Quoi.
Ouais, c'est un travail
sans les vendanges, encore pire, mais c'est vraiment la période la plus propice.
Et pour les auditeurs
ça.
Qui connaissent... Ça y est, j'ai pu revenir pas trop loin du micro. On est en plein bibon, c'est encore un peu technique, mais ça passe. Mais pour les gens qui connaissent un peu moins le travail global qu'il y a à faire dans la vigne, pourquoi c'est un peu plus tranquille?
Oui, c'est parce que la vigne est en repos, là, donc un peu nous aussi. Enfin, du côté vigne.
Oui, c'est ça. Après, c'est pas partie du travail.
Voilà, c'est ça. Mais sinon, le... Bon, depuis quelques années, ça se décale un peu, mais le gros du travail, c'est de février à juillet, quoi. Et puis après, il y a une petite pause en août, plus ou moins longue selon les millésimes. Et puis voilà, c'est ça. Et puis après, il y a le très très truc intense de l'année, c'est les vendanges septembre début octobre pour chez nous. Après, ça dépend des terroirs plus ou moins précoces ou tardifs. Mais du coup, après, voilà, novembre, décembre, c'est un peu plus calme, quoi. Dans les vignes et dans les caves. Et du coup, on en profite pour aller voir.
Pour faire d'autres choses, ouais. Mais en fait, quand on dit vigneron, c'est le mot englobe plein de travail différents.
En fait, c'est un métier qui englobe... on travaille sur les 3 secteurs, primaire, secondaire, tertiaire, pour amener ça à un côté économique. pas forcément le plus passionnant, mais c'est quand même...
C'est-à-dire,
le secteur primaire, on est dans l'agriculture. Hein, on a affaire à du vivant, du végétal, en l'occurrence, pour nous. Et puis après, la transformation, donc secteur secondaire, on fait, à partir du raisin, on fait du vin. Et après, il faut vendre le vin.
Parce que c'est bien de le boire, mais c'est mieux de le vendre.
Oui, c'est ça. Il
faut gagner sa vie.
Et encore une fois, nous ici, dans Qu'est-ce qu'on bouffe, on défend un certain mode de travail et un certain type de produit. Et voilà, il y en a qui ont plus de travail que d'autres en cave, par exemple, où il y a un peu plus d'intervention.
Et chez vous,
c'est pas le cas.
Non, le gros du travail, il est dans les vignes. C'est la période la plus longue et la plus intense.
Ouais.
Et après, on est dans la cave intensément pendant les vendanges, autant que dans les vignes. Mais quand les fermentations sont finies, c'est du suivi. On y passe dans les caves et on goûte, c'est espacé et pas aussi présent que voilà.
Bien sûr. Petit tour de table quand même, c'était quoi les derniers restos que vous avez fait un petit peu? J'aime bien demander ça.
Alors, toi, tu reviens, mais... nous du coup c'était loin.
Ouais, quelques kilomètres.
Les derniers, donc bon.
commandé par Marie Thibault à l'autre bout du monde.
C'est ouais, ça. C'est pas très local, ça faire, ça correspond peut-être pas à votre critère de localité.
Non, mais bah si, il y a aussi des gens qui bossent
bon,
bien.
Voilà, on a.
C'était quoi, Chicago la dernière étape?
C'était Chicago. Ouais. Avec, on a fait beaucoup d'endroits, donc je ne vais pas en citer. Mais bon, bref, il y a beaucoup de lieux comme peut faire, enfin comme Robin fait ici, c'est-à-dire mm-hmm. avec de la bouffe très chouette et puis des vins aussi, quoi.
Ouais.
Très chouette surtout aussi. Donc on en a écumé pas mal.
Ouais, vous avez fait un petit tour d'horizon, effectivement.
Ouais, ouais, ouais.
Et Simon, c'était quoi, toi?
Mon dernier resto, ouais. Je me demande si c'est pas chez Gaster.
Bah oui, on n'était pas le soir.
Oui, mais ça compte pas. Ouais, ça compte pas. Dimanche soir chez Gaster, mais ça compte pas.
Non, ça compte pas, effectivement. Et toi, Robin, c'était quoi le dernier? Pareil, chez Gaster.
Oui, pour le restaurant. En revanche, j'ai mangé un très bon chili délicieux hier midi. Du boudin noir et du chili délicieux chez Marie et France. Avec les cochons en plus.
On fait de la tambouille, nous.
Ouais. Ouais, alors essayez pas de réserver de table, ça sert à rien. Hein. C'est pas... Vous n'allez pas trouver sur. Effectivement, mais très bon chili. Et le boudin noir en entrée était incroyable. Tout ça fait maison.
Ouais, et fait par chez... un. Ouais. Exactement, ouais, ça venait de la ferme
Adrien
du plateau.
Et Nanou à la ferme du plateau. Ouais. Ouais.
Voilà, qui seront invités dans l'émission.
Des vrais cochons.
Un jour.
Nif, nif, naf, naf et nouf, nouf.
T'avais un petit jeu, Max, d'ailleurs.
Ouais, j'avais un petit jeu, exactement. Ouais, j'allais zapper, moi.
Et ouais, mon gars, Maître Capello, il est là pour te rappeler à l'ordre.
Il me rappelle à l'ordre, exactement. On va faire le petit jeu. On va commencer. Alors, tu vas voir, c'est très simple comme jeu. Hein. Est-ce que c'est Banana Split qu'on entend un petit peu dans nos 12 oreilles? Est-ce que c'est Banana Split?
Et ça progresse incroyablement.
Il y a du sound design maintenant.
Non, ouais, t'inquiète. Donc, Banana Split de Lio, Banana Split le dessert, ou est-ce que c'est les deux? Tu vas voir, ça va être très très facile. Alors, créé en 1980.
Banana Split de Lio.
Bah,
c'est ce qu'on écoute là.
Ouais, exactement.
Oui, c'est ça, oui. C'est ce qui me semblait.
Je pense que tout le monde connaît sans vraiment connaître. Oui, oui, oui. Bon, ça me paraissait important d'en reparler. Non, le dessin à Banana Split a été.
C'était quelle année ça?
1980.
Ah, oui, voilà, oui, c'est bien marqué. Ouais.
Bah, ouais.
On entend bien le synthé, oui. Ouais.
On n'a pas la chorégraphie, c'est dommage, mais je l'ai regardée avant l'émission, elle est exceptionnelle. Et le dessert a été inventé, lui, plutôt aux États-Unis, début du 20e siècle. Requiert une banane coupée en deux.
Le banana split dessert.
Bah, le dessert. Bah, je pense qu'il n'y aurait pas la musique s'il n'y avait pas le dessert, mais effectivement. Star des soirées karaoké.
La chanson de Lio, évidemment.
Ah ouais. Allez, ah,
après, après sur la table basse en plein karaoké, un petit banane.
Ouais, c'est ça. En quelle année? Bah, exactement. Et encore à la mode.
Ah bah,
aucun des deux.
Ouais, aucun des deux. Normalement, c'était les deux, mais là, c'est aucun des deux, mais c'est pas grave. À trois boules.
Le banana split.
Le dessert.
Le dessert,
oui. Je pense pas que ce soit. Enfin bref.
C'est chocolat, non? Chocolat, vanille et puis. Banane,
ouais, chocolat, vanille. Banane, bah, c'est banane coupée en deux. Trois boules normalement. Fraise, vanille, chocolat. Ouais, fraise, vanille, chocolat.
Ah, il y a la totale dans le dessert. Du coulis de chocolat, de la chantilly.
À retrouver chez Gaster? Non, je déconne.
Ouais, c'est ça.
Vous le verrez sûrement pas là-bas. Le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfant teenage? C'est la chanson, ça. Hein. C'est pas...
Ah ouais?
C'est pas l'intitulé
c'est pas
du dessert.
Tintin.
Non, mais okay. Écoutez les paroles, c'est exceptionnel. J'ai jamais pris le temps, mais vraiment très très bon. Merveilleux.
Mais oui.
Et un grand classique américain.
Bah, du coup, le dessert.
Ouais, bah, du coup, le
t'as
dessert.
T'as donné la réponse tout à l'heure.
Bah, ouais, du coup.
Maître Capello est très juste.
Ah oui, il est présent, il est réveillé. Et oui. Effectivement, du coup, j'en profite juste pour le rappeler, je suis tombé dessus un peu par hasard, mais on en a parlé il y a deux émissions avec Amanda, des Fatal Picard. On avait déjà fait un petit jeu avec Fatal Picard ou Picard.
Ah.
Et il y a eu un featuring. Il y a eu un featuring entre Lio et les Fatal Picard qui reprennent Banana Split. Voilà.
D'accord.
Je vous le conseille juste pour, pour l'anecdote du truc.
Picard, c'est quoi? C'est l'espèce d'enseigne où tu vas
ouais,
chercher
c'est
des
ça.
Trucs congelés, là, sous survolé.
Exactement.
D'accord.
Non, ouais, effectivement, on avait parlé.
Avec des petits choix entre.
Ouais, ouais, je prends toujours deux choses.
C'est vraiment local, ça. Ouais,
ouais exactement, c'est vraiment local. C'est clair. Alors, autre petit jeu, je vais vous. C'est plus devinette. Je vous demande qui est telle personne, est-ce qu'elle a inventé en telle année. Il faudra me poser des questions pour essayer d'avancer un petit peu pour trouver la réponse. Alors, je vous demande de me dire qui est George Crumb et qu'a-t-il inventé en 1853.
Alors, attends, redis-moi son nom.
George Crumb. On regarde pas sur Google, tu as triché.
Non, non, non. Maître Capello est toujours plus juste. George Crumb. Alors, déjà, vas-y.
Quelle nationalité?
Ouais.
Voilà. Alors, bah, il est américain.
Ouais, crème, ça fait C-R-U-2-M.
C-R-U-M.
M.
Exactement. Mais surtout, qu'est-ce qu'il a inventé en 1853? C'est un truc qu'on connaît tous. Et c'est en rapport avec la bouffe, hein, je précise, évidemment.
La trancheuse
le
à saucisse. Le
crumble.
Ah, c'est pas con. Non, c'est pas con. C'est pas con du tout, ça.
Non, c'est pas ça,
un
mais...
C'est un dessert anglais, le crumble.
Oui, oh, ça va.
Arrête de te la péter, c'est bon. Non, alors, qu'est-ce qu'il a inventé aux États-Unis? Qu'est-ce qui nous vient du patrimoine culinaire américain?
Bah, pas grand-chose.
Ouais, pas grand-chose. Les cheeseburgers, les fast-food, le milkshake.
Bah...
Hamburger.
Burger, non, c'est pas ça.
Le milkshake, il l'a dit.
Il a dit, mais c'est pas ça non plus. Hot dog non plus. On va faire le tour.
Qu'est-ce qu'il a... Je sais pas,
les
c'est
pancakes, un... Les pancakes, le café très léger.
Vas-y, on va poser des questions. Est-ce que c'est un ustensile pour faire la cuisine?
Non, non, c'est vraiment...
C'est un plat en général.
Une recette. Ouais, un plat, une recette, une chose qu'on mange.
Ok. Qu'on mange encore aujourd'hui, genre qu'on peut trouver sur des tables.
Qu'on consomme beaucoup, en France et dans le monde entier. Robin dit, il est loin du micro pour s'occuper d'un enfant, mais il a dit cacahuètes. Non, on n'invente pas les cacahuètes.
Ça, elles existent déjà avant qu'on les invente.
Le beurre de cacahuètes. Non, pas du tout. C'est un truc qu'on consomme vraiment beaucoup.
En entrée, en plat de résistance, en dessert.
Ah, plutôt entrée apéro.
Apéro, les chips.
Exactement, les chips. Alors, la parentalité de la chips est toujours un peu controversée, évidemment, mais il y a une histoire qui raconte ça. Donc, George Crumb était un chef à Saratoga Springs. Et après les multiples renvois d'un client qui disait que les frites n'étaient pas assez fines, étaient trop épaisses. Il en avait marre de refaire des frites toujours plus fines, donc il en a fait le plus fin possible. Il a mis effectivement de façon en friture avec beaucoup de sel et tout ça, et ça a donné la chips parce que le mec il a adoré. Mais vu que George Crumb était d'origine afro-américaine, et bah, il n'a pas pu déposer le brevet, donc on n'a aucune trace. En tout cas, il a essayé de le déposer, il y a des textes qui montrent qu'il a essayé de le faire, mais on ne sait pas si c'est lui effectivement qui est bien le papa de la chips ou pas.
Ouais. Okay.
Mais voilà, j'en profite pour parler un petit peu de la chips, qu'un truc qu'on consomme tous, je sais pas, mais qu'on connaît tous en tout cas, hein, de toute façon, on en voit quand même beaucoup. Et je crois qu'en France, consommation annuelle de chips, c'est genre 1,5 kg par an. Quand on voit ce que ça fait,
je dois
une
faire
chip.
1,5 kg en deux mois, moi je pense.
Ouais, à peu près. Et quand on voit comment ça s'est démocratisé, la chips, voilà, je trouvais ça bien d'en parler un petit peu. On va s'ouvrir la bouteille mystère,
ouais.
Mais on va se laisser un petit peu de temps aussi. En attendant, on va s'écouter un petit son. Marie, t'es venue avec une petite recommandation musicale.
Oui, oui.
Alors, je les ai pas reçus, mais tu peux m'en dire une, je peux la mettre sans problème.
J'ai pas.
T'as pas le temps de travailler dessus.
Si, non, mais j'ai réfléchi 2 secondes et demie avant de venir tout à l'heure parce que Robin m'en a parlé. 2 secondes avant de venir. alors, je sais pas, il y a beaucoup de choses possibles. La première chose qui m'est venue à l'idée, tu parlais de matériel de cuisine tout à l'heure, j'ai pensé à la complainte du progrès de Boris Vian.
Ah,
tu arrives à trouver ça.
Oh, ça se trouve, hein, Boris Vian, il n'y a pas de problème. Plaisant.
Eh ben, je l'ai, on peut écouter ça.
Ah, on écoute ça.
Allez, on écoute ça.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres de tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois.
Vous êtes toujours sur Radio Béton 93.6 dans l'émission Qu'est-ce qu'on bouffe ? Vous venez d'écouter Complainte du progrès de Boris Vian, et nous sommes toujours avec Marie Thibault, qui est vigneronne à côté d'Azel Rideau, dans le 37. Et nous venons d'ouvrir la bouteille mystère. Bouteille mystère, qui est le fil rouge de l'émission, où le but étant de trouver ce qu'on boit.
Ouais, oui.
L'abus d'alcool est évidemment dangereux pour la santé, surtout un mercredi matin à 10h23. Vous nous écoutez toujours sur les ondes de Radio Béton.
Peu importe l'heure.
On va cracher.
On dira qu'on crache.
De toute façon, les gens ne nous voient pas, donc c'est pas très très grave.
On peut cracher. Alors, proprement. Bah...
C'est ça, exactement. Mais du coup, ouais, qu'est-ce qu'on boit ?
Alors,
déjà, c'est du vin rouge.
Ouais. Déjà, c'est du vin rouge.
Ouais. Les auditeurs ne voient pas, mais c'est bien du vin rouge. Vous nous faites confiance de toute façon, sans problème sur la couleur du vin. Au moins là-dessus, on se trompe pas trop.
Qui a besoin d'une légère aération.
Ouais,
Une petite pointe de réduction.
Alors, tu nous expliques. Pour le coup, on est une vigneronne pour nous expliquer tous les termes aujourd'hui. On essaye d'expliquer et de vulgariser tout ça. Qu'est-ce que la réduction ?
On va rentrer dans les termes techniques là.
Vas-y.
Alors, qu'est-ce que la réduction ? C'est l'inverse de l'oxydation.
Bah déjà, faut expliquer. Tu veux expliquer l'oxydation ? Là, tu te tires une balle dans le pied. Tu vas être obligé d'expliquer
alors,
deux trucs maintenant.
L'oxydation, c'est plutôt. Alors, on va parler aromatique comme ça. Voilà. Je vais pas rentrer dans des techniques d'oxydoréduction chimique, mais l'aromatique, c'est plutôt l'oxydation forte. C'est plutôt quand c'est très fort l'oxydation, ça fait des arômes de noix. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment le marqueur. Dans les vins, du coup, les plus marqués comme ça, on peut parler des vins du Jura, qui sont les oxydatifs, c'est très marqué par la noix. Donc ça donne vraiment une idée du côté extrême de l'oxydation. Ouais,
quand vous sentez la noix dans un vin...
Des aromatiques d'oxydation.
C'est quand même souvent un vin sur l'oxydatif quand vous sentez les arômes de noix.
Et alors, la réduction, c'est l'inverse du processus, mais qui donne un résultat de... La réduction, ça peut être des oignons un peu pourris, forts. Alors là, c'est très fort.
Animal,
oui, c'est une forme de réduction aussi qui n'est pas la plus intéressante. Et puis, quand surtout, elle ne part pas, alors là, c'est embêtant. C'est pas forcément le bon signe pour le vin.
Ouais.
Mais il y a plein de sortes de réductions, de raisons.
Que du négatif, quoi. Il faut expliquer aussi aux gens
que. Non, complètement. Il y a même des réductions magnifiques. Je préfère un vin dans la réduction. Enfin, vaut mieux un vin dans la réduction que dans l'oxydation. On peut y remédier, même.
Mm-hmm. Oui, bah.
La réduction, on carafe, on aère son vin. Et,
exactement.
Et ça passe et c'est rien. L'oxydation, c'est mort.
Comment ça marche
un petit peu ? C'est fou.
Ouais, c'est ça. Et toi qui as fait des études là-dedans, parce que c'est vrai qu'après, on va parler avec des gens, il y a des gens qui sont devenus vignerons, qui n'ont pas forcément fait, entre guillemets, les études pour ça. Toi, tu as eu un parcours d'études de biologie et d'œnologie.
Oui, c'est ça.
Tu nous expliques un petit peu ce que c'est l'œnologie pour les gens qui nous écoutent.
Ah oui, l'œnologie, c'est l'étude du vin. Voilà, c'est l'œnologie, étude, œnos, du vin. Mais pas le côté, pas comme il y a le sommelier aussi, étudie le vin, mais côté beaucoup de dégustation et d'associer au nez et à la bouche, au type de vin, une région de vin ou un domaine. Oui. Voilà, c'est vraiment sur la dégustation, la sommellerie. Et puis associé avec des mets, évidemment, à l'alimentation. Mais l'œnologie, c'est vraiment un côté technique de
l'élaboration. Il y a plus un côté
dans l'élaboration
chimique
du vin, dans la technicité de.
Je t'avouerai que moi, j'ai fait 10 ans de restauration comme sommelier. Plein de fois, tu arrives à table, ils font c'est vous l'œnologue.
Alors, c'est ça.
Calmez-vous, posez
mélangé.
Cette carte des vins, je vais vous expliquer deux secondes, quand même, un petit peu.
C'est pas du tout le même résultat non plus. D'ailleurs, moi, je suis. Malheureusement incapable, j'ai de vagues idées, mais je suis pas du tout pointu pour une bouteille mystère, ça reste un mystère.
Moi, je te rassure, on n'est pas pointu non plus, vu comment on se gourre toutes les semaines.
En attendant, il y en a toujours un qui trouve chaque semaine, sauf la première, le Cabernet Sauvignon qu'on a eu dès le matin, première émission. Globalement, toutes les autres et la mondeuse.
Ouais.
Ton micro n'était pas allumé comme tu as un enfant dans les mains.
Bah, je me revois un petit peu dans le game. On remercie toujours Fanfan pour le Cabernet Sauvignon à 10h le matin. C'est ce qu'on recommande.
C'est vrai que c'est un peu plus dur.
C'est toujours du rouge.
Non, ça dépend.
Ah bon, quand même.
C'est quand même souvent du rouge, mais c'est vrai que le blanc...
Elle aime peut-être plus le rouge.
Oui.
Ouais. peut-être
sur, donc là, c'est la 6e émission. On a eu 2 blancs, 4 rouges.
Merci de tenir les comptes. Moi, j'aurais.
Eh ben, Maître Capello est là pour ça. Il tient toujours les comptes.
T'as vu, il est fort quand même. Hein. Il est de l'autre côté de la vitre, mais il assure, il n'y a pas de problème.
Ouais.
On va se laisser le temps un petit peu de l'aération, du coup, comme on a dit, on va en reparler tranquillement.
On va parler un peu plus de Marie.
On va parler de Marie, exactement.
Alors, oui, technique. Oui, alors, oui, bah, c'est pas le. Ça donne pas le même résultat que les sommeliers, là. Ça fait pas le même. Le même fonctionne, enfin la même logique d'apprentissage et de, mais bon et même dans la dégustation du coup le résultat moi je n'analyse jamais j'analyse toujours en termes de qualité ou de défaut, ce qui est un peu tordu en fait, c'est un peu chiant en fait.
Ouais non mais bon non, mais
parce que le but c'est quand même de se faire plaisir. Mais du coup, voilà, c'est pas la même.
C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on s'était fait réflexion une fois en goûtant aussi un vin à l'aveugle. On avait fait l'émission test avec Simon en invité qui avait fait le cobaye. Il n'était pas encore Maître Capello à cette époque-là.
Ouais. Non,
Maître Capello avant Maître Capello. Et c'est vrai qu'on avait dit, on commence à déguster. Il a dit un truc très simple, très bête sur le papier, mais c'est juste, est-ce que c'est bon? Et c'est vrai qu'on déguste à l'aveugle, on est toujours dans un truc d'analyser, de chercher qu'est-ce que c'est.
Est-ce que ça te plaît, première question?
C'est exactement le sujet, en fait.
Bah là, première question, est-ce que ça vous plaît?
Alors, pour l'instant, moi, je n'ai pas goûté, j'ai senti, mais...
Ça part assez facilement, la réduction, quand même, je trouve. Elle n'est pas très, très marquée. Tu peux faire ce petit bruit dans le micro, en général. Voilà.
Moi, j'avoue avoir une idée de prime abord du cépage, assez rapidement.
Ouais. Ça commence par un G.
Ouais, à 10h. Ouais.
Pas du tout.
Ah ouais,
ça commence par un P.
Ah ouais.
Ah
ouais.
Le Pamet. Le Pabernet Franc.
Le Picpoul.
On sort des blagues que les gens connaissent pas, mais.
Le Pinot Noir.
Ah ouais. La bouche, peut-être, ouais, c'est vrai.
Ouais, plus.
J'aurais dit aussi, j'ai pensé aussi plutôt à un Gamay, moi. Gamay. Mais bon.
Ouais, je pensais Gamay aussi.
Au départ,
ouais, alors c'est possible.
Bah, c'est la même famille sous famille, en tout cas, ils sont assez proches, le Gamay et le Pinot Noir.
Oui, c'est vrai.
Donc on peut avoir des ressemblances. Il faut savoir que le Pinot Noir, à travers le temps... Je parlais d'histoire, normalement c'est pour Franz qui accompagne. C'est lui qui aime l'histoire normalement, mais c'est vrai qu'à travers plein de siècles qui sont passés, le Pinot Noir avait très bonne réputation, aussi parce qu'il était dans une région gérée par des moines, par l'église et tout ça, et le Gamay c'est un peu le vilain petit canard qui avait mauvaise réputation ces dernières années. On y revient un petit peu plus maintenant sur le Gamay qui revient un peu plus à la mode, mais il y a toujours des gens qui disaient ouais, le Beaujolais ou le Beaujolais nouveau qui a mauvaise réputation aussi, mais voilà, c'est deux cépages qui sont très intéressants. Il ne faut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je trouve ça un peu dommage. On peut faire des très bons vins avec les deux, quoi. Je pense.
Ah bah oui, non, mais de toute façon, on peut faire
des très bons vins avec
tout.
N'importe quoi. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit.
Pas n'importe quoi, mais pas avec des oignons.
Même avec des cépages anciens, des choses comme ça.
Mais tous les cépages, ils peuvent en sortir dans des grands vins.
Ah, mais du coup, j'en parle un petit peu parce que toi, tu travailles des cépages qui ne sont pas forcément... les plus réputés, autant, parce que
oui,
tu vois,
j'ai
dit le mot gros lot tout à l'heure, qui n'est pas un gros mot. Hein. Et voilà, tu travailles sur ces pages qui ne sont pas très très connues, pour le coup.
C'est vrai.
Mais c'est quoi ton approche là-dessus? À quel point tu trouves ça intéressant? À quel point tu te dis, tu t'es jamais dit, tiens, je vais travailler des cépages peut-être plus classiques, entre guillemets, plus vendables, hein, sur papier?
Alors, c'est un vrai sujet, ça. Bon, moi, quand je me suis installée où je suis aujourd'hui, parce que je voulais faire du chenin. Donc. Mais bon, là, on goûte un rouge, on parle de rouge, mais...
On peut parler de chenin,
voilà, mon but c'était de faire du chenin, voilà, ça c'est fait. J'ai coché la case depuis quelques années. J'adore toujours le faire du chenin.
Ouais.
Mais en m'installant à Azel Rideau, j'ai découvert le gros lot. Et c'est top, quoi. C'est vraiment un super cépage. Et par contre, donc tu parlais de cépages plus connus et plus vendeurs. J'aurais pu aussi, j'étais plus proche, ça aurait été plus simple que je m'installe sur une région avec du cabernet. Mais pour moi, c'était hors de question, le cabernet.
On en a parlé tout à l'heure.
Voilà, je le sentais pas. Je trouvais ça difficile. Enfin, Il y a des grands cabernets, hein. J'ai goûté des choses très très belles et tout ça, mais je ne me sentais pas du tout de... non, je ne dis pas ça, mais c'est très difficile à faire.
Ouais, c'est un cépage un petit peu austère, comme on l'avait abordé avec le co, le carignan, certains cépages qui sont plus difficiles que d'autres. Quoi,
ou alors c'est bon, mais 20 ans après, quoi. Ouais.
Allez, 10 ans.
Du coup, aujourd'hui, alors il y a une époque, ça devait être sûrement fabuleux parce qu'il y a quand même, il y a longtemps, les gens gardaient les vins longtemps, les grands, les bons vins, quoi. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. Donc,
écoute, moi, je suis originaire de par ma famille de Bourgueil, et on a une cave qui regorge de cabernet millésime après millésime. Ah bah là, tout n'est pas, non, ça dépend.
Du coup, tu cuisines des bœufs bourguignons tous les week-ends.
Ça dépend.
Tout n'est pas bon, même après
30
ans.
Mais oui, si. Pour certains millésimes et certains qui ont été bien faits.
Les élevages longs, ça fait un truc magnifique. Mais bon, le gros lot, du coup, c'est plus rapide. Quoi.
Alors, il faut savoir que le gros lot, c'est un cépage qu'on l'utilisait beaucoup aussi pour faire du rosé. On en a reparlé hier.
Zel Rideau, il est autorisé dans l'appellation que en rosé. C'est-à-dire, c'est un peu les limites toujours. Il y en a beaucoup de limites dans les appellations, mais là, c'en est une un peu importante.
Et l'appellation qui est Touraine à Zel Rideau.
Touraine à Zel Rideau, voilà. Mm-hmm. Alors, elle existe pour le chenin, pour du blanc sec, donc ça, pas de problème. Mais pour du gros lot, elle ne l'autorise qu'en rosé. Donc, il faut. Alors. C'est à nous de faire changer les. C'est aux vignerons des zones, des régions pour faire changer les cahiers des charges. Hein, mais les démarches sont tellement longues que. Il faut s'y prendre 10 ans à l'avance. Donc, quand on s'installe.
Il faut 10 ans à chaque fois pour faire changer
c'est
le truc.
Et puis, quand on s'installe, on a autre chose à faire qu'à changer les règles d'une appellation qui existe depuis longtemps. Mais c'est vrai que c'est un sujet quand même.
Non, faut en parler, c'est problématique.
Sur l'appellation Touraine à Zel Rideau, ce que tu m'apprenais hier, c'est que la présidente de l'appellation est une vigneronne aussi.
Ah oui, c'est une chouette appellation.
C'est qui
C'est Sophie Claire.
Le domaine du Chai de Télém.
Oui, Chai de Télém.
Qu'on embrasse.
Très bien. Qu'on a vu d'ailleurs dimanche. C'est chouette, c'est une toute petite appellation en fait, il y a très peu de surface, mais il y a plein de choses à y faire, c'est des magnifiques terroirs, c'est surtout ça le vrai sujet.
Oui.
Il y a de magnifiques terroirs, des cépages superbes à travailler aussi, mais alors avec le petit truc qu'il faudrait, il y a beaucoup de travail quand même à faire sur les sélections matériel végétal, remplacement, Et puis, maintenir aussi le vignoble existant, le faire revivre, parce que c'est quand même une zone très sinistrée. Hein. C'est pas une zone de. Il y a eu des installations là récemment, mais c'est pas une zone où il y a beaucoup de vignobles en fait. C'est assez diversifié, il y a de l'arboriculture aussi. C'est ce qui fait le charme du lieu d'ailleurs. On n'a pas des marais de vignes, c'est super. Mais. Il faut quand même une dynamique.
Ça fait beaucoup de travail à faire forcément dans les vignes. Il y a des endroits où tu t'installes, il y a des vignes partout.
C'est ça. Là, il y a des vignes, on peut en trouver, ça coûte pas cher, le foncier est pas cher, mais il est en très mauvais état.
Effectivement. S'il y a des personnes qui arrivent, on est en direct sur Radio Béton toujours.
Il faut planter, mais bon, du coup, c'est pas facile.
Bien sûr.
Tu t'installes, de planter.
Mais du coup, c'est pour les auditoristes qui viennent d'arriver, on est avec Marie Thibault, qui est vigneronne. J'en profite pour le redire quand même. C'est pour ça qu'on parle de vin, qu'on parle de matériel végétal. On va utiliser des mots qui peuvent vous faire peur pour les personnes qui connaissent pas trop. Un peu technique, mais c'est bien, c'est l'occasion d'en reparler. On a parlé de réduction d'oxydation. S'il y a personne qu'on n'a pas entendu parler, ça va vous faire bizarre si on réaborde ces sujets-là. Mais effectivement, tu es dans un coin. Ou pas très très loin de Tours, pas très loin d'ici, on a Vouvray, Mont-Louis-sur-Loire qui sont quand même deux grosses appellations.
C'est pas la même historique du tout.
C'est ça exactement.
C'est pas la même approche.
Et tu peux nous expliquer un petit peu, parce que j'allais dire c'est des terroirs très différents, mais tu arriverais à nous expliquer ce qu'est le terroir, parce que nous on en a parlé un petit peu dans d'autres émissions, on a essayé de le vulgariser, mais tant qu'à faire que ce soit une vigneronne qui nous parle c'est quoi le terroir.
Alors c'est quoi le terroir c'est d'abord une zone géographique qui inclut un sol, un terrain. Avec un climat, quoi. Et après, il y a un matériel végétal dessus, c'est-à-dire un cépage, en l'occurrence pour le vin. Ça peut être des terroirs pour d'autres productions du vin. Mais en tout cas, quelque chose une plante ou même des animaux, une culture agricole. Et après, il y a l'humain aussi. C'est une grande part aussi sur le côté terroir. Il y a l'humain qui va faire quelque chose, ou pas.
Ou pas, effectivement.
mais qui, voilà, c'est la notion de terroir, il y a plusieurs, plusieurs aspects.
Oui, effectivement. Mais effectivement, comme on en parlait, nous,
c'est
on en parlait.
C'est très complexe, en fait. C'est,
bah, complexe. C'est ça, c'est très complexe et c'est ce qui rend le sujet si intéressant, je trouve aussi. Parce que de travailler le même cépage sur le type de terroir que tu as, plutôt à silex, ou de le faire sur, effectivement, de l'argile, on va avoir des vins qui sont forcément très différents. Et toi, le travail que tu as à faire, il est aussi très différent.
C'est ça. Et ça ne se comporte pas du tout de la même façon. Nous, on le voit bien, au sein d'une même société dans laquelle je travaille. Ça s'appelle maintenant un saumon dans la Loire, mais on a deux vignobles. Je suis à Azay historiquement, mais France est sur Mont-Louis. Et du coup, on voit bien vraiment tout au long de l'année les grandes différences qu'il y a entre ces deux terroirs-là. Sur une zone à 50 km d'écart. C'est pas non plus des distances délirantes. Ça reste 37. Voilà. Mais il y a des très, très grosses différences de sol, évidemment, mais aussi de climat, de température, la nuit, le jour.
Ouais, voilà, il y en a un qui est plus proche du fleuve, enfin de la Loire déjà aussi.
Ouais, alors les deux sont, il y a beaucoup d'eau un peu pas des deux côtés, mais c'est, enfin sur Azay encore plus, je pense, enfin là où est située la parcelle, là où je suis, c'est vraiment à l'embouchure de l'Indre dans la Loire. C'est vraiment un lieu de beaucoup d'eau, de beaucoup de confluence.
De confluence, ouais.
Donc du coup, ça se comporte différemment que Mont-Louis, effectivement.
Les étés ne sont pas les mêmes, les hivers ne sont pas les mêmes.
Exactement, il y a vraiment des grosses différences de température et d'hygrométrie. Et puis après, même, il y a des différences par parcelle. Même sur un même. Moi, j'ai tout au même endroit, mais sur Mont-Louis, France a des parcelles plus différentes sur différents îlots. Et ça engendre des grosses. Il y a des endroits qui gèlent, il y en a d'autres qui ne gèlent pas.
On peut parler du gel parce que c'est un sujet ces dernières années. C'est un peu compliqué.
On peut en causer,
Et pour en revenir à tes vins personnellement, pour le coup, du coup, tes chenins. Ouais. Je trouve qu'il y a toujours une typicité très tendue, très minérale, d'assez léger et, comment dire, en texture en tout cas. Pas trop lourd, pas trop riche, comme quand ça pousse dans des argiles. Souvent,
il n'y a pas la puissance de l'argile.
Est un peu représentative du sol dans lequel il pousse.
Oui, complètement. Là, on est vraiment dans ça.
Et la typicité chez toi, c'est un peu ça sur les chenins.
Oui, complètement. Ça fait des choses avec des grandes tensions, des grosses fraîcheurs. Et puis toujours, même des millésimes riches, 22, 20...
19.
Alors, 19, on se retrouve avec des tensions toujours importantes. Donc, c'est assez chouette. C'est ce que je cherche. C'est un peu là où j'ai plaisir.
C'est ce qui te plaît.
Ouais, c'est ce qui me plaît. Après, c'est des terroirs aussi fragiles et difficiles et il faut y travailler beaucoup. J'appelle ça des terroirs un peu squelettiques, c'est-à-dire que
ils sont pas très nourris,
il n'y a que du sol.
Riche,
c'est un peu une plage avec des cailloux dessus, donc
ça manque un petit peu de matière organique pour nourrir la vigne.
Faut tout le temps réfléchir à ça.
Est-ce qu'on a avancé un petit peu sur la bouteille mystère ou pas? On a eu le temps d'aérer le vin un petit peu Est-ce qu'on a des petites idées de ce que
Moi, je trouve ça assez frais, un petit peu acidulé. C'est sur le fruit bien vif.
Pas trop de tanin, Non, c'est quelque chose de très gourmand.
Donc, je dirais que c'est un vin assez jeune.
Plutôt jeune, ça, c'est sûr.
Et dans les derniers millésimes qui viennent de passer, ça pourrait même faire 2023, truc un peu de cette année. C'est bien en place, en tout cas.
Oh, c'est prêt à boire. Il y avait la petite réduction au début qui est partie relativement facilement. Moi, je suis plutôt sur des fruits noirs. C'est légèrement épicé, je trouve, un petit peu.
Je reste sur mon avis de pinot noir pour l'instant.
C'est plutôt nord, en région aussi. Plutôt...
On est au-dessus de Limoges.
On coupe la France en deux ici, et c'est Limoges la limite.
Au-dessus ou en dessous de Limoges.
Voilà.
Et ça, un jour, j'aurai la réponse à pourquoi Limoges, quoi. Moi, je préfère Lyon, tu vois.
Limoges, c'est un peu une ville mystère.
C'est le concept de Jean du Vigneau, mon beau-frère, qui a ce moyen de méthodo pour placer un vin.
Totalement arbitraire, Limoges. Prenez le marqueur que vous voulez, c'est le plus important. Mais en tout cas, c'est plutôt nord de la France. Si on coupe la France en deux, terroir. Est-ce qu'on est dans le coin?
Je sais pas. Moi, j'hésitais un moment, peut-être un côté avec le. Je sais pas, un truc.
Soit la Loire. Nigérien, c'est les équilibres de l'île de Loire, mais bon.
J'hésite un peu avec la Bourgogne sur des trucs.
Ça manque de bois pour la Bourgogne.
Il y en a qui n'ont pas la rêve par rapport au bois, la Bourgogne. Les Bourguignons sont réputés, on va dire, pour Marie-Thibault, mais pour plein d'autres personnes, en fait. Ils sont aussi réputés pour utiliser beaucoup de barriques et pour rajouter ça au goût du vin. On ne s'arrête pas juste au goût du raisin, on rajoute d'autres choses en plus. Ouais. C'est naturel parce qu'on fait vieillir le vin dans des barriques, mais on peut choisir les barriques pour plus ou moins marquer le vin sur le bois. Mais effectivement, on n'a pas trop ce côté bois ici, là. On reste plutôt sur quelque chose de fruité. Ouais.
Ouais.
Oui, oui.
On va se redonner le temps de la réflexion avant de donner notre avis, même si on est quand même bien avancé là-dessus, avec un autre petit son de Marie Thibault.
Et on va écouter « J'aime pas le rock » de Jean-Yann.
Le rock est formidable, le rock est impeccable, le rock est remarquable, le rock est appréciable, le rock est adorable, le rock est admirable, le rock est délectable, le rock est estimable.
J'aime pas le rock.
Il est inimitable, il est inappréciable, il est inoubliable, il est inégalable, il est inattaquable, il est inestimable, il est indispensable, il est indiscutable.
J'aime pas le rock. Et je vous dis que j'aime pas le rock.
Il n'aime pas le rock.
Ah non, j'aime pas le rock, alors je déteste le rock. J'ai horreur du rock.
Il n'aime pas le rock.
Je hais le rock, j'abomine le rock, je maudis le rock.
Il n'aime pas le rock.
J'aborde le rock, je méprise le rock, j'exècre le rock. Le rock est haïssable, le rock est détestable, le rock est exécrable, le rock est lamentable, le rock est déplorable, le rock est méprisable, le rock est imbuvable, le rock est effroyable.
S'il aime pas le rock.
Il est inqualifiable, il est déraisonnable, il est intolérable, il est inacceptable, il est insupportable, il est insoutenable, il est inconcevable, il est abominable.
Pourtant le rock c'est battre quoi.
Il n'aime pas le rock.
Ah non j'aime pas le rock alors, ah non.
Il n'aime pas le rock.
Ah non ça dégoûte le rock alors, ah j'aime pas ça alors.
Vous êtes toujours sur Radio Béton 93.6. Vous venez d'écouter J'aime pas le rock de Jean-Yann. Et il y a un problème de micro.
Ah. Qui a un problème de micro? Micro 1, test 1.
Là.
Test... Non.
Ouais, est-ce que ça marche? Oui.
Oui, ça a l'air de marcher. Vous êtes toujours sur Radio Béton 93.6. C'est le mien qui a l'air d'avoir un problème.
voilà. Avant d'accuser les autres,
tout
voilà.
Tout simplement. Vous venez d'écouter J'aime pas le rock de Jean-Yann. Nous sommes toujours avec Marie Thibault. Et juste avant, on parlait de la bouteille mystère. La bouteille mystère, qui est le fil rouge de l'émission, où le but étant de deviner ce que l'on boit.
Exactement. On va en reparler un petit peu plus tard, là, en fin d'émission, dans 10 petites minutes, allez. Et on a parlé beaucoup avec Marie. Tu nous expliquais. En manière raccourcie, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le travail de vigneron, aussi bien sur la viticulture qu'en cave. Je l'ai dit, on n'a pas le temps de faire tout en une heure, de toute façon. Mais en tout cas, de parler un peu de ton parcours. Et tu m'avais dit hier qu'à la base, tu essayais de t'installer plutôt du côté de Saumur, parce que c'est le terroir.
J'ai commencé, de 2004 à 2008, j'ai vinifié, enfin j'avais un petit bout de parcelle, hein, j'avais 20 tares de chenin, puis je travaillais à côté en plus. Et j'ai commencé à faire une cuvée dont j'ai gardé le nom d'ailleurs, premier-né, et sur la zone de Saumur-Champigny, donc sur des terroirs magnifiques, enfin calcaires, là, le caillou était à 30 cm. Là, c'est des grands terroirs de dingo. Enfin, des grands terroirs. Alors, terroirs, en fait, dans le sens où, bah oui, en fait, c'est des terroirs où t'as rien à faire. Quoi.
Ouais, non,
si, tu travailles, mais
par rapport
pas
à ce que t'as à l'heure
actuelle. Ouais,
tu
vois, là, t'as juste à. Tu fais le boulot dans les vignes, mais quel que soit le millésime, quand il fait sécheresse, le calcaire fait le rôle d'éponge et te restitue l'eau, c'est magique, quoi. Donc ça c'est des terroirs où il n'y en a pas beaucoup des comme ça,
oui,
chez nous, mais bon,
Et puis il y a un truc qui lisse un petit peu les vins par rapport au millésime.
Ah, c'est vrai.
Il y a des effets millésimes, mais en tout cas, tu as toujours une trame un petit peu similaire.
Ouais, c'est vrai que du coup, effectivement, du coup, en résultat aussi, c'est un peu lissé. C'est plus difficile, effectivement, du coup, de marquer. C'est moins marqué millésime, peut-être, effectivement, sur des zones comme ça que sur les nôtres, quoi. Qu'en Touraine, quoi. Enfin, que sur nos terroirs. Enfin, pas toute la Touraine, d'ailleurs.
Non, pas toute la Touraine. Où il n'y a pas de calcaire, quoi. Oui, voilà.
Mais oui, là, on a une belle notion de terroir. Et puis, mais bon, à Saumur-Champigny, voilà, la vie a fait que je voulais faire du chenin, donc toujours un peu cette obsession.
Bon, on parle d'obsession, là.
C'est un peu une obsession. La ligne directrice, c'est pas le fil rouge de l'émission, mais c'est,
et pourquoi,
c'est le fil blanc de ma vie.
Et pourquoi t'as toujours voulu faire du chenin ? Déjà, d'où vient ton rapport au vin ?
Alors, rapport au vin, j'ai goûté jeune, alors. Ado, ouais, j'ai commencé à goûter des vins assez jeunes dans mon milieu familial, qui était passionné de vin, où il y avait mes parents avaient des copains vignerons. Et
Parce que ta famille, personne n'est vigneron
dans
ta famille.
Non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout d'un milieu agricole. Mes parents sont profs, étaient profs. Ils sont à la retraite aujourd'hui. Donc pas du tout d'un milieu agricole, mais j'ai grandi à la campagne quand même, avec des vignes autour. J'allais voir les voisins quand il y avait les vendanges, je me tirais à 10 ans. 8-10 ans, j'allais voir comment ça se passait, j'aimais beaucoup. C'était à l'époque, dans les années 80, c'était sous la pluie, et en ciré, c'était au mois de novembre, les vendanges, et puis sous... il y a la notion de changement climatique.
Aujourd'hui, on est beaucoup plus tôt que ça. Quoi.
Oui, on est en septembre, oui, complètement. Non, mais
sous la pluie, toujours.
Alors, cette année, oui. Oui, il y a des années, on en revient peut-être. J'espère qu'on... Ouais, je n'ai pas trop envie de faire ça trop souvent. Quand
même. Non, pas tous les ans, c'est fatigant quand même.
J'espère pas qu'on se renseigne trop souvent.
Ouais, non, tu m'étonnes.
Voilà, j'ai goûté du vin et puis des chenins. Et du coup, en Anjou, c'est quand même aussi un cépage de chenin qui a beaucoup. Du coup, je me suis retrouvée à goûter des chenins assez jeunes. Des chenins, on parlait pas de vin nature à l'époque, mais dans les années 2000, quoi, même fin 90, en fait, 95, j'allais au Salon des Vins de Loire, je goûtais des vins, et il y avait donc les premiers. Je me suis retrouvée à goûter des vins de dingo, des chenins. Alors à l'époque, c'était les vins, c'était les moelleux à la mode, c'était plutôt dans la course des liquoreux, c'était à qui. Ouais, les vins les plus riches.
On voit bien la différence par rapport à maintenant.
complètement l'inverse.
Les gens ne veulent pas de sucre.
Non, exactement. On est tout l'inverse. Mais bon, bref. C'était quand même du chenin. Et qui est capable de faire ça, en fait. C'est un cépage magique parce que tu peux tout faire. Quoi. Tu vois, ça peut être.
On fait de la bulle,
secs,
on fait du
des bulles, des demi-secs, des moelleux. Enfin, tu peux faire toute une gamme passionnante.
Un peu comme le cochon dans la cuisine.
Tu peux vraiment tout est bon.
Ouais, sauf dans la cuisine VG, déjà.
Évidemment.
Au VG.
Bah oui, toujours, il faut y penser. Hein. Oui. Il y en a qui nous écoutent.
Il y a plein d'alternatives au cochon, d'ailleurs.
C'est vrai.
Ouais, mais c'est quand même le cochon, c'est quand même...
Pas pour faire la même chose.
Mais non, tu fais pas la même
chose. Tout à fait se régaler.
Tu fais pas la même chose, exactement.
Mais voilà, donc le chenin, c'était un peu la thématique. Et sur calcaire, parce que du coup, moi je suis angevine d'origine, mais j'aurais pu m'installer en Anjou. Mais je voulais du chenin sur un socle, aujourd'hui j'ai pas de calcaire, mais sur un socle calcaire. Je voulais pas être sur schiste en fait. Dans les années 90-2000, ça commençait déjà à avoir des choses plus... sur schiste, le chenin est toujours un peu plus...
opulent
plus riche.
Trop riche.
Et des fois, j'avais pas trop envie d'avoir ces trames-là.
On le sent dans tes vins, tu préfères la trame un peu plus tendue, plus minérale.
C'est ça l'idée.
Ça paraît cohérent.
C'est ça que j'ai cherché.
Ouais. Pour les gens,
commence à trouver.
Mais pour les gens qui connaissent pas ton travail et celui de France également, de pouvoir goûter les vins, prenez le temps, regardez sur Instagram, Un Saumon dans la Loire, vous allez au moins voir la tête des étiquettes, ça va vous parler si vous voyez ça chez un caviste, une caviste, au restaurant, n'hésitez pas à goûter parce qu'il faut vous faire une idée, c'est bien de parler avec la vigneronne, de l'écouter parler, c'est bien aussi de pouvoir goûter les vins, nous on goûte même pas ce vin là aujourd'hui mais on les a goûtés et il faut goûter en fait.
Et vous pouvez même aller chez les vignerons directement pour faire une dégustation, acheter du vin. N'hésitez pas à
manger un
chili. Manger
un chili, il n'y a pas de problème, ils sont
faut
hyper ouverts.
Faut nous appeler avant, faut pour qu'on soit là.
Oui, voilà, faut prendre rendez-vous évidemment, mais les vignerons font ça, de recevoir des gens pour goûter, montrer la cave, goûter des choses, acheter du vin. Et c'est hyper important.
Si vous passez mi-septembre les voir pour déguster, ils vont peut-être vous envoyer balader.
Ils ont d'autres affaires,
vous verrez autre chose, oui, ils verront. Ouais. Dans les caisses de raisin.
Vous allez vous faire kidnapper. Bah tiens, j'ai tout un rang là-bas.
Il me manque un demi-hectare à récupérer. Si tu peux aller le faire, tu me
Donc passez pas cette période-là ou passez. Ça dépend si vous êtes motivé ou pas.
Vous pouvez voir comment c'est encore. On voit bien ce qui se passe du coup.
Exactement. Qu'est-ce qu'on boit? On va révéler.
Est-ce que vous voulez révéler? Bon, alors vas-y, déjà, avis final. On va commencer par Marie.
Ah bah, l'avis final, je trouve ça très bon. Puis c'est chouette parce qu'il est. Donc il y avait cette côté réduction à l'ouverture là, mais il s'ouvre. Super bien, gentiment, et puis ça devient très bon, très élégant. Il est très beau ce vin, mais je plutôt au nord de la France.
Ça, on est d'accord. Mais...
J'espère de la France d'ailleurs, je dis de la France, mais ça se trouve, ça peut.
C'est vrai qu'on n'a pas eu encore de vin étranger.
Dans l'étranger.
Non, ouais, non.
Pas bon, encore.
On arrive, oui, ça, voilà. Ça pourrait.
On est très franco-français sur le vin, apparemment.
Disons que nous, en plus, tous là autour de la table, on a quand même plutôt l'habitude de consommer des vins de Loire, de goûter pas mal dans l'année. Et là, ça nous aiguille un petit peu vers un truc qui est dans le coin. Quoi.
Non, mais c'est plutôt. Moi, je trouve que c'est un équilibre plutôt ligérien aussi. Mais bon, voilà.
Okay.
Un millésime assez récent, effectivement, c'est pas très vieux.
Mais quel cépage du coup? On part sur du gamay, du pinot noir? Je pense qu'on est plutôt dans ces... entre les deux là.
Plutôt ces cépages là, ouais.
Ok. Mais... Dur de savoir, effectivement. Moi je pars plutôt sur
cabernet,
un gamay.
Ça m'étonnerait que ce soit un cabernet, mais alors là.
Incroyable,
tout
la révélation.
Si, si c'est du cabernet, donnez-moi la vigneron, j'y vais tout de suite.
Ouais, c'est
exactement. Non, moi je vais plutôt rester. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Je pars plutôt sur du gamay. Après, j'arrive pas à savoir si c'est de la Loire ou pas. Effectivement, l'équilibre ligérien, comme tu dis, on le retrouve là avec beaucoup de fraîcheur, de tension.
Mais assez soyeux quand même.
Est-ce que c'est du 41 par exemple?
Ouais, c'est possible.
C'est possible.
Je pense que dans ce coin-là.
Dans ce coin-là.
Tu hésites avec le Beaujolais.
Toi. Ouais, j'hésite avec le Beaujolais, vraiment. Mais selon le millésime, ça va changer la donne. Et,
Robin, vas-y, dernier avis.
Bah, Beaujolais, on est un peu plus au sud. En vrai, j'ai soit ça, soit un truc ou plus particulier. Et pour le coup, on part plus à l'ouest, dans le Muscadet. Il y a des mecs comme Brotodo et tout qui font des pinots noirs un peu comme ça, avec un peu de profondeur comme ça. Ça pourrait être ça. Mais ouais, il y a un peu le côté gamay. Moi, je reste du coup pinot noir gamay 2023 fait dans le 41. Ça me paraît.
Moi, je pense que
c'est vrai que Brotodo, c'est pas bête.
Je resterai bien sur un assemblage gamay pinot noir, mais moi, je veux dire 21 sur le côté.
Peut-être.
Sur le département.
Non, sur le millésime, je trouve que ça fait pas 23 au niveau.
Au niveau corpulence.
Voilà, je trouve ça quand même assez froid. Globalement, ce que Marie disait tout à l'heure, c'est que ça fait pas, ça fait soit des millésimes du sud un peu froid, soit des millésimes de la Loire. Voilà. Je pense qu'on est sur 21 si on est dans la Loire.
Robin, tire la chaussette.
Je vais sortir.
Comme Colette, parce qu'en fait, ça va beaucoup mieux depuis qu'elle a enlevé ses chaussettes toute seule sur le tapis.
Pas ses chaussettes.
Du coup, si ça
alors,
se trouve,
qu'est-ce qu'on boit problème.
Alors, qu'est-ce qu'on boit?
Oh là, allez. On est bien sur du gamay, bien Foyard. Dans le Beaujolais.
Ah, j'aurais dû rester. J'ai dit Jean Foyard tout à l'heure, je suis un bâtard.
En plus, c'est une super cuvée chez Vigneron. J'aime beaucoup Corcelette.
Je suis un bâtard.
Ouais. Alors, quel millésime?
2021.
Ok.
Alors, c'est pour ça que du coup, ça fait un peu plus léger. Millésime froid, parce qu'on est quand même plus au sud que chez nous. Et tu vois, c'est tellement délicat que ça pinote un peu et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment délicieux. Ça goûte.
J'ai le démon. J'ai dit son prénom tout à l'heure. J'ai dit ça me fait penser au gamay de Jean Foyard 2021.
Tu l'as pas dit dans le micro.
Bah non, je l'ai dit pendant la pause musicale.
Personne te croit du coup.
Et la mallette des 20 000 euros qui est sur le bureau pour la personne qui trouve la bonne réponse.
Non, je me mords les robignoles.
Exactement.
Mais non, c'est pas grave. Faut dire à tout le monde, faut tenter. C'est pas grave.
Ah, fait chier. J'aurais dû rester sur mon avis. Je suis trop con. J'ai dit gamay Beaujolais dès le début. Et ça m'a fait penser.
Écoute, ça doit être son deuxième millésime en plus. Franchement, on l'encourage à continuer. Jean Foyard.
Alors, petite blague parce que c'est pas un nouveau Jean Foyard, effectivement. Non.
D'ailleurs, son fils a un domaine, Alex.
Très très bon aussi.
Très très bon.
Ouais, mais là, c'est vraiment délicieux.
On est pas
local. Simon.
L'adresse, oui. Donc Fanfan, l'associé de Robin qui a acheté la bouteille, donc c'est Corcelette de 2021 de Jean Foyard. On est donc sur un Beaujolais de Jean qui s'est installé en 1985 et fait partie des vignerons emblématiques de la région. Bouteille que l'on peut retrouver à déguster à la Maison des Halles, là où travaillait Maxime juste avant.
À la Maison Clément aussi.
Voilà, et à la maison Clément aussi.
Oui, en clave.
Voilà, donc je sais pas où elle l'a acheté, mais en tout cas, on peut la boire à la maison des Halles à Tours. Place
ouais, c'est moi qui l'ai fait rentrer à la maison des Halles à l'époque.
Tard l'époque, mon ref.
Ouais, j'étais arrivé là-bas, je suis arrivé en 2015 à la maison des Halles et je suis arrivé à Tours. Moi, c'était la surprise de dire ok, tout le monde boit du Bordeaux ou du Chinon. Et ça s'arrêtait un peu là, tu vois, et je fais mais c'est trop bien le Beaujolais, je vais en faire rentrer. J'en fais rentrer, des bons clients, j'en fais goûter, ils font non, mais c'est pas bon. Et il m'a fallu genre 2 ans à cravacher pour faire boire ça aux gens. Et je dis pas que c'est grâce à moi du tout, hein, mais je dis juste que voilà, c'est un travail de longue haleine pour faire changer les habitudes des gens. Ouais, les habitudes, exactement. Robin, je sais pas si tu es une roco, mais là, on va commencer à arriver sur le temps, on va devoir se quitter.
Tout à fait.
Est-ce que t'as un truc en soum-soum là en 30 secondes à expliquer
bah, bien sûr, on va trouver quelque chose, mais qu'est-ce qui pourrait.
Le boudin noir.
Bien aller avec ça, ouais, le boudin noir, un peu technique à cuisiner, mais par contre, non, je sais pas, un truc tout simple qu'on peut faire à la maison rapidement, des poires vinaigrettes.
Ah ouais.
Voilà, un truc hyper facile, juste à tailler des poireaux, essayer d'enlever un petit peu le vert, garder-le pour faire une soupe ou autre chose, mais c'est plutôt le blanc et la partie verte claire qu'on mange. Rincer-les à l'eau froide, qu'il n'y ait plus de terre, si on les cuit 5 minutes à l'eau salée, bien salée, 5 minutes, on les égoutte sur un papier ou on les met directement dans l'assiette. Une vinaigrette bien moutardée, ça va très bien avec, du coup, une belle cuillère de moutarde, de
moutarde
vinaigre
de Dijon, d'Orléans,
ou de vinaigre de cidre, bien meilleur pour la santé, ça se digère beaucoup mieux.
La moutarde, tu préfères quelle origine ? Dijon, Orléans ?
Ah, ça dépend de la qualité de la moutarde et de la maison qui la prépare, c'est le mieux. Pommerie, il y en a deux, trois autres qui font des moutardes très bonnes, mais l'appellation, c'est pas vraiment une appellation contrôlée. C'est un peu une image que ça donne, mais la recette, autant acheter des bonnes moutardes. Il n'y a pas tellement d'appellations qui soient mieux que d'autres.
Oh, c'est vrai, exactement. Marie, merci beaucoup d'être venue.
Merci de m'avoir invité.
C'était trop bien. On s'est vu 2 fois en 2 jours. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Ça va être une question.
On s'est vu 3 fois en 4 jours. dimanche à la Claudicante.
Ouais. Ouais, c'est vrai.
Exactement. Et puis, on va se quitter sur un petit dernier son que tu vas nous proposer.
Oui, moi j'ai noté.
Parce que t'as réussi à lire.
Oui, Giorgio Conte. Ah oui. On va se laisser là-dessus. Vous étiez sur Radio Béton, et vous êtes toujours d'ailleurs sur Radio Béton 93.6.
Et on se revoit dans 3 semaines.
Exactement, parce que c'était la dernière émission de l'année 2024. Donc on se reverra le 8 janvier, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, exactement.
Voilà, on vous laisse avec Giorgio Conte. Et je vous souhaite une agréable journée juste après.
Et une très bonne fin d'année.
Et une très bonne fin d'année.
Bien des fêtes et mangez tout ce qu'il faut.
Et juste après, vous aurez l'émission Le Dictaphone.